Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, nous allons parler du Jimi Hendrix Experience et de son premier album appelé Are You Experience. Et en plus, j'ai le grand plaisir d'avoir un invité pour nous parler de cet album qu'il vénère. Il s'agit de mon ami Guital, musicien hors pair, amoureux des belles choses, artistique comme mécanique. Il nous donnera ses réflexions sur Jimi Hendrix et notamment sur son apport musical.
Bonsoir Alain, bonsoir chers auditeurs d'Open Blues en particulier. Je suis très très heureux de pouvoir donner mon sentiment ce soir sur ce grand musicien qui était et que demeurera d'ailleurs toujours Jimi Hendrix.
Bonsoir Guital. Et merci d'être présent ce soir. Je suis ravi de faire profiter nos auditeurs de toutes tes connaissances sur la musique en général, de Jimi Hendrix en particulier. Bon, ce premier album du Jimi Hendrix Experience est aussi puissant qu'un uppercut donné sous potion magique. Découvert par l'ex-bassiste des Animals, Chas Chandler, dans le café new-yorkais WA, Hendrix va passer du statut de SDF à celui de SDR, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Et je pense que Guital, tu as des choses à nous dire là-dessus. Si jeune et pourtant déjà si bon, diront les classiques du blues. Si innovant en studio ou sur scène, dira surpris tout le monde musical du Swinging London. En l'espace de 3 mois, Hendrix va jammer avec le Cream de Clapton, dont il a exigé la rencontre pour venir à Londres. Mais il va aussi faire venir à ses concerts les Beatles, les Stones, les Who, Jeff Beck, Jimmy Page et même Johnny Hallyday pour la petite histoire. Chandler, au départ, ne perd pas de temps à recruter des musiciens. Il trouve d'abord Noel Redding, qui est un bassiste formidable, qui plaît beaucoup à Hendrix parce qu'il le trouve très compétent en matière de port du blues. Chandler connaît aussi Mitch Mitchell, qui vient juste de quitter le groupe Georgie Fame and the Blue Flames. De formation jazz, son approche rythmique plaît aussi immédiatement à Jimmy. Bref, Hendrix, Redding et Mitchell répètent ensemble aussitôt et leur intérêt commun pour le rhythm and blues les rapproche et consolide dès le départ le groupe. Are You Experienced est leur premier album sorti en 1967. Il est considéré comme l'un des meilleurs albums sortis emblématiques du rock psychédélique, ainsi que l'un des meilleurs premiers albums de l'histoire du rock. Are You Experienced est enregistré entre 2 concerts, il faut le savoir, souvent durant la nuit, dès que le groupe en fait a un peu de temps. Il est produit par Chas Chandler, qui y met toute son énergie et toutes ses économies aussi. Il sort donc en mai 1967 pour atteindre très vite la seconde place des charts, empêché qu'il était de trôner sur la première marche à cause du Sgt. Pepper's des Beatles, déjà paru. L'album fut classé 15e meilleur album de tous les temps par le magazine Rolling Stone, premier album indémodable, inusable, éternel comme le sont les diamants. Jimi Hendrix devient une star internationale avec son jeu de guitare flamboyant. Dis-moi Guital, tu penses vraiment que cet album, il a changé beaucoup de choses, il a apporté de la nouveauté dans ce qui se produisait à l'époque?
Il faut bien se mettre dans le contexte, Jimmy, qu'il avait une vie très mouvementée, il dormait quand il pouvait, donc il prenait aussi pas mal de produits pour tenir, pour dormir, pour s'envoyer en l'air. Le sexe, bien sûr, était toujours présent, mais très très présent chez Jimmy, puisque même son outil de travail a été modelé, à ce qui paraît. Et ils ont fait une statue avec ça. On peut naturellement imaginer que Jimi Hendrix a été cherché, et c'est tout naturel, toutes ces histoires et tous ces titres de chansons dans ce qu'il vivait à l'époque.
À ce point-là ?
Ça va très loin. On est dans l'époque psychédélique, dans l'époque folle. Tout le monde se déchaîne. On essaie de casser des stéréotypes, de changer le monde. Enfin, même pas. On essaie de le changer, mais on ne sait pas forcément où on va. On fait, comme le dit ce titre, des expériences. Donc lui, il est en plein là-dedans et il se lâche complètement. Il se lâche complètement. C'est ce qui lui permet de nous offrir cet album merveilleux. Comme disait Ange, il était au-delà du délire.
Merci Guital. On en vient au premier morceau, Foxy Lady, qui est apparu sur l'album mais a aussi été publié plus tard comme leur troisième single aux États-Unis, avec une orthographe alternative d'ailleurs, Foxy Lady, EY au lieu d'un simple. C'est l'une des chansons les plus connues d'Hendrix, qu'il a fréquemment joué dans des concerts tout au long de sa carrière. Le magazine Rolling Stone l'a classé numéro 153 sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Le critique de musique Thomas Ward souligne « Si une chanson pouvait être considérée comme englobant toute l'œuvre de Hendrix, Foxy Lady en est certainement la plus évidente. » T'es d'accord, Guital ?
J'adore ce titre parce que c'est un des premiers titres que j'ai entendu de Jimmy et ça m'a fortement marqué, notamment par le son, bien sûr, comme tout le monde, le son de sa guitare, sa façon de tordre les notes, de tordre les cordes et d'aller encore plus loin que tout ce qui avait été fait auparavant. C'est un véritable novateur de ce côté-là. Foxy Lady est bâti sur une forme un petit peu tribale avec ce riff qui est continu, qui est lancinant. Et derrière, on a toute cette guitare et toute la voix de Jimmy. On sent bien qu'il essaie de séduire, de plaire, d'envoûter. Alors qui, l'auditeur, l'héroïne de sa chanson, on ne sait pas trop. Mais on sent ce côté séducteur. Voilà, c'est ça que je ressens le plus quand j'entends ce titre.
Yeah.
C'était Foxy Lady du Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Manic Depression est une chanson écrite par Jimi Hendrix et enregistrée par Jimi Hendrix Experience en 1967, toujours pour le même album. Le critique de musique, William Ruhlman, décrit les paroles comme plus une expression de frustration romantique que la définition clinique de la maniaco-dépression. La chanson est jouée avec une triple mesure, une signature de temps inhabituelle pour le hard rock qui venait juste de naître. Il met également en vedette la percussion, jazz, influence de Mint Mitchell, le batteur, et une ligne de guitare et de basse jouant en parallèle. Pour moi, à titre personnel, c'est certainement une des musiques les plus blues de l'album. La version live de l'album Winterland est une des meilleures traces de ce morceau sur scène. D'autres musiciens ont enregistré Manic Depression, en particulier Jeff Beck, Blood, Sweat and Tears, et même le jazzman Larry Coryell. Bref, tout ça pour dire que ce morceau n'a peut-être pas la réputation des autres, mais il reste quand même un excellent morceau. Yeah. C'était Manic Depression par le Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Passons maintenant à mon blues préféré d'Hendrix, Red House, qui a été inspiré par les chansons de blues qu'il jouait au début de sa carrière en tant que sideman, notamment avec Curtis Knight et les Squires. À l'origine, enregistré par Albert King en 1961, comme Traveling to California, c'est un blues lent avec les paroles qui suivent le thème du blues commun, à savoir l'histoire d'un homme décousu et son amour perdu. Guital, je crois savoir que tu aimes bien ce morceau.
Red House. Là, je vais te faire un aveu. Je travaille ce titre pratiquement tous les jours. C'est le blues qui m'a le plus marqué. Alors que bon, Jimmy n'est pas ni un père du blues, il en est un fils certainement. Mais ce blues m'a énormément marqué parce qu'il correspondait davantage à ma génération quand Experience est sorti. Donc ça m'a beaucoup touché. Il y a une façon de jouer ce blues qui est dans les plus grands classiques, sur les gammes pentatoniques, etc. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. Il le chante très typique, très dans les clous, on va dire. La seule différence, c'est que il y met une patte vraiment différente. Et c'est toujours son système à lui d'aller au plus profond des notes, d'aller chercher le plus loin possible les notes, de faire dire à sa guitare des choses qu'on n'aurait pas pu croire. Et c'est là qu'il devient exceptionnel. Ce blues est un grand, grand classique pour moi. Je pense que tous les guitaristes amateurs devraient commencer par travailler ce titre. Thank you.
C'était Red House du Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. On en vient maintenant à la chanson suivante, Fire, qui, le feu en anglais, qui, malgré ses connotations apparemment sexuelles, à l'origine, ce n'est simplement qu'une chanson qui était tout à fait inoffensive pour les bonnes mœurs. En fait, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une allusion de la part de Jimi Hendrix sur le feu de l'amour, mais en fait pas du tout. Cette chanson fut créée suite à une anecdote devant un feu de cheminée, par un soir très froid de Nouvel An. En effet, après un de leurs concerts, Noël Redding a invité Jimi Hendrix chez sa mère, à Folkestone, en Angleterre. Transi de froid, Hendrix a demandé à la mère de Noël s'il pouvait se tenir près de sa cheminée pour se réchauffer. Mais son grand chien danois, lui, occupait déjà la place. Il s'appelait Rover et prenait vraiment toute la place. Alors Hendrix lui dit, sous forme d'humour, « Oh, déplacez-vous, Rover, laissez Jimmy prendre le relais. » Et en fait, cette phrase, quelque part, on la retrouve dans la chanson qui Hendrix finalement joue avec ses paroles, en mettant le fait que Jimi Hendrix a toujours soutenu que c'était avant tout un travail à trois avec la guitare, la batterie et la basse. Tu y crois, toi, guitare, à cette histoire ?
Le feu est certainement l'élément qui représente le mieux Jimi Hendrix. Là, dans Fire, on a tout qui est dans le rythme et dans la percussion. On a Mitch Mitchell derrière qui se déchaîne sur ce titre, et c'est un vrai bonheur. Tout est très percussif. C'est là toute la science et la force d'un power trio. Et eux, ils l'exploitent vraiment, vraiment à fond. Cette façon de travailler le rythme et d'envoyer des riffs de guitare un petit peu en question-réponse, on peut appeler ça comme ça, un coup la guitare, un coup la batterie, avec une basse bien ronde et bien lourde derrière, eh bien ça va donner aussi un petit peu d'élan à la pop moderne qui va se dire, ben oui, on va pouvoir utiliser ça, mettre un peu plus les batteries en avant, ce que ne se gêneront pas de faire d'ailleurs les Zeppelin et d'autres. Les batteurs jusque-là n'étaient pas vraiment un complément. Là maintenant, avec Fire, avec cette formation-là, on peut les mettre devant, puis on peut attaquer encore plus fort le rythme. C'est quand même fort pour un mec qui joue de la guitare au départ d'avoir pensé à ça.
Je comprends donc que c'est avant tout un exercice musical plutôt qu'une allusion, même très évasive, au sexe. C'était donc Fire du Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Je regrette de ne pas pouvoir évoquer toutes les chansons de cet album. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Et puis, je tenais à rendre cet hommage finalement à une des chansons que j'aime bien de Jimi Hendrix. Je veux parler d'Hey Joe. Et il sera intéressant d'avoir l'avis de Guital, qui, je sais, a un avis légèrement différent du mien. Pour ce qui est de présenter ce morceau, ce qui m'amuse en premier, c'est de penser que c'est un peu grâce à Johnny Hallyday si on a pu connaître Jimi Hendrix en France. En effet, il a facilité la diffusion de son premier tube. Un peu étonné, mais c'est une réalité. Jimi a même joué de la guitare sur une des versions chantées par Johnny, qui lui-même a repris cette chanson. Finalement, cette version n'a pas été retenue. Pour autant, Hey Joe a été joué dans de nombreux styles de musique par des centaines d'artistes différents, donc on peut penser qu'il existe comme ça de par le monde des versions très étonnantes. Hey Joe raconte en fait l'histoire d'un homme qui est en fuite et qui prévoit de se rendre au Mexique après avoir tiré sur sa femme infidèle. Cela change un peu des paroles chantées par Johnny, plus versées sur la dénonciation du racisme et de l'amour déçu. Officiellement, la chanson a été créée et enregistrée aux États-Unis en 1962 par un dénommé Billy Roberts, mais cette paternité a toujours été compliquée à établir. Mais j'en viens à donc Guital, ton avis sur cette chanson.
S'il est certain que Hey Joe est peut-être un des titres les plus connus populairement de Jimi Hendrix, je ne pense pas que ce soit celui qui le représente le mieux. C'est une très très jolie ballade, il l'interprète fort bien, notamment avec cette idée de jouer sur les basses à la fin du titre. On s'amuse tous à faire ça et c'est très plaisant, mais je préfère encore, quand j'écoute une ballade de Jimi Hendrix, écouter Little Wing ou The Wind Cries Mary.
Ah, The Wind Cries Mary, quel morceau, quel slow langoureux. Oui, oui, c'est vrai, c'est un bon morceau, ça.
Qui sont, je pense, beaucoup plus proches de ses sentiments. Je peux me tromper, mais Hey Joe me semble une sorte de figure imposée, peut-être un côté, un coup commercial, je sais pas. Mais ça, ce n'est que mon sentiment, hein. Je veux pas faire bondir les fans de Jimi Hendrix non plus, voilà.
Non, tu vois, je suis resté très calme, j'ai gardé le contrôle, hein, absolument. En tout cas, sorti en décembre 1966, la version d'Hendrix est devenue un succès au Royaume-Uni, entrant dans le top 10 des singles des charts britanniques dès janvier 1967 et culminant jusqu'à la 6e place. Le single a été diffusé aux États-Unis dès le 1er mai et son succès fut mitigé. Fut néanmoins un des principaux exemples de ce qui allait devenir le hard rock encore débutant. Messing around with another man. C'était donc Hey Joe de Jimi Hendrix Experience
sur OxyWeb Radio.
Vous avez sûrement reconnu l'introduction de Purple Haze. Purple Haze, qui est une chanson écrite par Jimi Hendrix encore, est sortie en tant que deuxième single par le Jimi Hendrix Experience en mars 1967. Atteignant le haut du sommet des hits dans plusieurs pays, titre d'ouverture sur l'album américain de l'Experience, cette chanson a été la première version entendue par beaucoup de gens avec ce son rock psychédélique caractéristique d'Hendrix, dont le riff rageur est mémorable.
Justement, tu vois, là, dans Purple Haze, on a cet accord 7e-9e. C'est un riff qui est toujours un petit peu tribal. On peut pas enlever ça à Jimmy. Il sait comment amener les gens. Il sait faire tourner des choses, des rythmes, de façon à un petit peu les hypnotiser, les amener dans son propre délire. Et là, il a réussi parfaitement.
En effet, son jeu de guitare inventif, comme le disait Guital tout à l'heure, qui est un mélange en fait de blues et de modalités orientales cette fois, est façonné par de nouvelles techniques de traitement du son. En raison d'ambiguïté dans les paroles, les auditeurs interprétèrent à l'époque souvent la chanson comme faisant référence à une expérience psychédélique, bien qu'Hendrix l'ait décrite comme une simple chanson d'amour. Purple Haze est l'une des chansons les plus connues d'Hendrix, qu'il a souvent joué dans ses concerts. A titre d'exemple, la version à Woodstock avec l'enchaînement fabuleux après l'hymne américain, pour moi, reste un sommet des représentations d'Hendrix. Transition reste pour moi vraiment tout à fait exemplaire de ce que Jimi Hendrix était capable de faire avec sa guitare sur scène, en jouant de tous les effets possibles, du Larsen comme du reste. Et pour moi, je trouve que ça méritait d'être repassé ce soir. Sinon, pour en rester sur les origines de la chanson, on peut estimer que c'est une véritable œuvre du groupe dans sa réalisation musicale et sonore. Elle est le résultat d'un formidable travail d'abord accompli par Jimi Hendrix lui-même, bien sûr, et Jazz Chandler toujours très pressant. Très présent. Tout est parti d'un riff trouvé par Jimmy qui a subjugué dès le départ The Chess. Noel Redding et Mitch Mitchell n'ont été associés finalement qu'au début de l'enregistrement parce qu'en fait Chess Chandler considérait qu'il était beaucoup plus efficace de préparer ce morceau et de travailler dessus avec le seul Jimi Hendrix. Ils ont néanmoins leur part dans la réalisation finale avec l'apport de la basse de Noel et son jeu de ses caractéristiques et surtout la batterie démente de Mitch Mitchell qui était encore là à l'époque de Woodstock et que vous avez entendu. De nombreux musiciens ont enregistré leur propre interprétation de la chanson, ce qui en fait l'une des chansons les plus reprises d'Hendrix. We'll be right back. C'était donc Purple Haze de Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. Stone Free est une chanson écrite par Jimi Hendrix également encore et enregistrée avec son groupe en novembre 1966. Elle est sortie en fait uniquement en single jusqu'à l'édition de 1997 qui l'a rajoutée à la liste des chansons paru dans cet album.
Stone Free, c'est un morceau que j'aime beaucoup, puis qui est construit d'une façon très très intelligente. On entend du blues, bien sûr, là derrière. On entend un petit peu de la funk également. Puis bon, il y a le son Hendrix, bien sûr. Mais on est là déjà dans une recherche jazz. On ne sait peut-être pas assez que Jimi Hendrix aurait pu, s'il avait vécu, être un grand précurseur du jazz rock. C'est mon opinion, c'est mon sens. Hein. Je le vois comme ça. J'en ai souvent discuté avec d'autres guitaristes, mais bon, c'est qu'un vecteur de pensée, c'est tout. Je pense qu'il allait se sortir du psychédélique qui l'ennuyait un petit peu parce qu'il fallait en faire. C'est ce qui se vendait bien, mais je pense pas qu'il se serait vraiment épanoui là-dedans, d'ailleurs. Vous avez vu, c'est tombé un petit peu en désuétude après. Mais là, dans Stone Free, on sent vraiment une autre puissance, quelque chose qui arrive, qui est justement cette idée de jazz rock. Et je pense que ça aurait été un grand monsieur dans cette discipline.
Tout comme sur Purple Haze ou Foxy Lady, Hendrix utilise la corde dominante 7/9 dièse sur le riff principal. On m'a dit qu'il utilisait si souvent cet accord qu'il est souvent considéré comme l'accord d'Hendrix. Il caractérise absolument son jeu.
À l'accord 7/9. Non. Alors ça, bon, c'est un accord qui existait bien avant Jimi Hendrix. L'expliquer comme ça pour des profanes, ça va être un petit peu barbant. Disons que c'est un accord majeur sur lequel on va rajouter la 7e note après la dominante et la 9e note après la dominante. Et encore la 7e mineure. Donc cet accord est un accord, disons, beaucoup plus riche harmoniquement, qui sonne beaucoup mieux, et on peut l'utiliser en blues naturellement, mais également sur d'autres rythmes. Et Jimmy ne s'en est pas privé, c'est beaucoup, beaucoup, même tous les bluesmen aujourd'hui utilisent cet accord traditionnellement. Stevie Ray Vaughan l'utilisait également beaucoup.
Hey!
Voilà, c'était donc Stone Free, Jimi Hendrix Experience sur OxyWeb Radio. C'est une chanson que j'aime beaucoup, je vous l'avoue. Et notamment, j'avais beaucoup apprécié une version qu'avait interprétée Clapton sur l'album Hommage à Jimi Hendrix, Tribute to Jimi Hendrix, où j'avais trouvé la version particulièrement émouvante. Je vais terminer la présentation de cet album par une chanson qu'on entend très très peu souvent, qui a le même titre que l'album, Are You Experienced, mais qui pour moi est certainement une des musiques les plus originales produites par Jimi Hendrix, et notamment en studio. Pour moi, cette chanson, c'est la démonstration de la recherche perpétuelle et des expériences, comme disait Guital tout à l'heure, que voulait tenter Jimi Hendrix.
Une petite chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait qu'à cette époque-là, les auditeurs, les fans de Jimi Hendrix, ben, ils ne tournaient pas à l'eau claire, les gars. C'était l'époque où il y avait beaucoup de drogue et Jimi Hendrix aussi en usait et en abusait. Et donc, leur perception de la musique était radicalement différente de la nôtre aujourd'hui quand on pose la galette sur notre chaîne Hi-Fi. J'irais même jusqu'à penser que le titre Experience veut peut-être dire est-ce que tu as expérimenté dans le domaine de la prise de certains produits. Bon, ça regarde que moi, mais je l'entends un petit peu comme ça, surtout en raison du titre que je préfère sur cet album qui est Are You Experienced, et qui pour moi est une perle dans le domaine de la recherche, on va dire, de la musique astrale.
Pour moi, on pénètre finalement dans son univers à lui, qui était finalement une musique composite, parce qu'il n'avait pas son pareil pour capter dans toutes les origines musicales qu'il pouvait entendre, que ce soit la musique indienne, orientale, le blues bien sûr, mais aussi le rock et pourquoi pas les musiques électroniques qui commençaient à sortir. Tout ça fait finalement une sorte de musique assemblée, de musique où il envoie comme ça des sons qui au bout du compte restent relativement cohérents par rapport à la chanson de base. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on est quand même en 1967, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Et évidemment, c'est un choc. Et c'est pour ça que finalement, je vous présente cette chanson. C'est pour vous montrer, essayer de vous faire toucher du doigt un peu le saut acoustique, électronique, électrique qu'il y a eu à la sortie de cet album. Pour moi, c'est peut-être même la réponse de Jimi Hendrix au Pet Sound des Beach Boys et au Sgt. Pepper's des Beatles, avec simplement trois instruments, une guitare, une basse, une batterie. Alors voilà, je vous laisse avec cette chanson qui n'a rien à voir avec tous les tubes qu'on a pu entendre depuis le début, mais qui pour moi explique beaucoup de choses dans ce que l'on aurait pu vivre avec Jimi Hendrix si la vie lui avait laissé un peu plus de temps.
Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you.
in the distance. I think they're calling our name. Maybe now you can't hear them, but you will if you just take hold of my hand. Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful.
C'était donc Are You Experienced, Jimi Hendrix Experience. C'était le dernier morceau. Je voudrais remercier Guital d'avoir bien voulu participer avec moi ce soir à la présentation de cet album qui, je sais, nous a marqués tous les deux. Lui en tant que musicien et bien sûr mélomane, moi essentiellement comme mélomane. Je ne perds pas de vue que c'était aussi un musicien de blues, pour en revenir à Jimi Hendrix, qui, dans les albums qui vont suivre, va continuer à montrer la voie vers de nouveaux horizons pour le blues. On sent dans toutes ses interprétations que le blues n'est pas loin. La seule chose, effectivement, c'est qu'en 1967, quand l'album sort, beaucoup se demandent ce que ça vient faire ici. Je te laisse, Guital, conclure cette émission.
Merci Alain, merci de m'avoir proposé ces petites questions. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ton émission. Et je dirais pour mon mot de la fin que Jimi Hendrix, eh bien merci Jimi de nous avoir appris à pousser les choses encore plus loin, de tordre encore plus les amplis et les guitares. Et je lui dois toute la folie qui m'habite aujourd'hui quand je prends une guitare électrique en main. Merci, bonsoir à tous.
Quant à moi, il me reste à vous dire bonne soirée, à vous remercier encore de votre fidélité. Avant d'annoncer le programme pour la semaine prochaine, je vous propose de terminer en se faisant le Purple Haze de Woodstock. La semaine prochaine, nous aborderons Otis Redding. Je vous ferai une présentation générale de la carrière d'Otis Redding, qui malheureusement disparaîtra cette année 1967, laissant derrière lui une œuvre assez importante et particulièrement intéressante. Mais d'ici là, roulez blues.